Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux au dernier cours du soir de ce samedi. Nous avons comme thème, Sylvie Denis et moi, Time Oddity, David Bowie et le temps. On va essayer de parler rock and roll, de parler esthétique, de parler de britannique, de gamme. Tu me coupes si tu as quelque chose. Tu me prends aussi le micro.
Problème.
On va commencer à filer la voix. On s'est séparé plus ou moins les grandes paroles. C'est Sylvie qui fera une grande partie sur les origines et plusieurs parties. Quant à moi, j'interviendrai plus sur la fin, sur les dernières époques Bowie. Donc voilà. On essaiera d'avoir peut-être 5 minutes d'échange pour vous, si vous avez des questions. Voilà.
On n'oublie pas que du moins, ce qui me concerne, je suis avant tout auteur de science-fiction. Je ne suis pas une spécialiste. Je suis quelqu'un qui écoute David Bowie depuis un certain temps, on va dire, mais pas plus. David Bowie nous a fait la mauvaise farce de mourir le 10 janvier 2016 sans avoir connu personne qui l'a été une mauvaise forme. Et la plupart des fans et des amateurs, etc., n'ont plus que constater la chose. Et un des points qui a été le plus marquable, à mon avis, ça a été la façon dont cette mort a été traitée. Je ne sais plus si on a la photo, enfin, mais c'est pas grave. J'ai soutenu une photo des journaux anglais de l'époque et on voit qu'absolument il y a tout un rack de journaux anglais et il n'y a que ça, quoi. Surtout
la
couverture du Times. Surtout, voilà. Si tu peux revenir juste dans les cartoons, une des façons dont la presse a traité sa mort, c'était essentiellement, c'est du moins le thème qui me semble trouvé le plus souvent, c'est celui du ciel, de l'espace, des étoiles. Vous voyez Major Tom, qui est un cosmonaute qui arrive à la porte du paradis. On a la Discovery, qui chante Heroes. On a la Vincent cosmonaute. Et encore là, c'est juste un échantillon. Si j'avais voulu, j'aurais pu vous en sortir des dizaines. Ça m'a fait trop. Et ce que j'ai trouvé le mieux, effectivement, c'est la couverture du numéro spécial du Times, The Times, et qui disait David Bowie is life on Earth, avec les deux dates, comme si ce type-là n'avait jamais appartenu à notre planète pour de vrai, comme s'il était juste venu ici comme un visiteur qui était en partie. Et j'avais trouvé cette couverture absolument extraordinaire. Et en tout cas, elle synthétisait totalement la façon dont il a été perçu pendant très longtemps par le public en général, par les journalistes, par les amateurs et par le public. Pour résumer juste un petit peu, je pense que vous savez déjà qui était ce type-là, mais bon, ça fait rien, au cas où. Donc un chanteur de rock, un innovateur, mais pas que, un amateur d'art, quelqu'un qui a souvent dit qu'il était essentiellement doué pour faire passer high art, je suis désolée, mais il n'y a pas d'équivalent en français, disons l'art académique, de le transmuter au niveau populaire. Quelqu'un qui a eu un succès phénoménal, qui se transforme en millions d'albums, en millions de dollars aussi, dans tous les médias. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument souligner. Tous les médias, ça veut dire la chanson, ça veut dire les textes, ça veut dire les dessins, ça veut dire des tableaux, ça veut dire, je l'oublie très certainement, mais des vidéos, je ne sais pas les noms, j'ai oublié les vidéos. Quelqu'un qui a été totalement fasciné par le succès, par l'idée de devenir une star, c'était soit toujours été son but quelque part, il l'a dit, et qui est arrivé, qui était aussi fasciné par l'idée de, d'être autre chose que, qu'un être humain, finalement il est arrivé quelque part. Quelqu'un qui a toujours été le véhicule de la couleur, qui a été quelqu'un qui incarnait quelque part toute une palette de couleurs et dont la carrière s'est terminée par un album qui s'appelle Black Star et qui est mort tout à l'heure. Ce qui est tout de même et le temps dans tout ça. Le temps court dans toute son œuvre de manière distribuée dans toutes les chansons. Parfois c'est un mot, parfois c'est une expression, parfois c'est juste une allusion, et on le trouve aussi dans les interviews, on le trouve surtout dans le chanson, on le trouve en tant que personnage. Le personnage dans l'œuvre de Louis, il est incarné. Il est dans la chanson Time, bien entendu, et il est dans le début de Rock'n'Roll Suicide, c'est-à-dire Time Spent a Cigarette. Et c'est pas le personnage, le narrateur qui prend la cigarette, c'est le temps. Donc, le temps est absolument primordial. Donc nous allons voir comment la chose se décline dans différents temps de l'œuvre. Sachant qu'on ne peut pas tout faire, parce que c'est un moment de carrière, donc on ne peut pas. On est foutu dès le départ, une partie que j'avais fait, je suis super contente, elle était passée à l'as. On ne peut pas. Donc on a essayé de mettre des projecteurs sur un certain nombre de points, en espérant que ça donnera une idée assez claire. Et voilà quoi. Mais on sait qu'on ne peut pas tout dire.
On commence du coup par en revenir sur cette œuvre que peu de personnes connaissent, son tout premier album, David Bowie, qui est sorti en 1967. David Bowie ressemblait à peu près à ça.
Donc avant Ziggy, avant le succès, Bowie c'était, du moins en apparence, un hippie, entre guillemets, un type qui bossait avec d'autres gens dans un Arts Lab, c'était un mouvement des années 60 où les gens s'organisaient entre eux pour créer des lieux avec des spectacles, de la musique, quantité d'activités. Et donc la photo de gauche, c'est dans un pub, ça s'appelle le Truton's Pub. Et ça, à cette époque-là, son public, c'était son personne. Hein, pour pas se faire de. Là, on est avant 69, on n'est pas loin avant. Et voilà, et ça, c'est le premier album. Je ne me trompe pas dans les dates, ça c'est 67. Il a 20 ans. Effectivement, vous pouvez voir que c'est pas l'image à laquelle on a. C'est pas l'image dont on a l'habitude. Si tu veux ajouter quelque chose,
déjà, cet album est assez folk en fait. Si vous écoutez cet album, il est vraiment. Se rapproche d'un Dylan ou de quelque chose comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas rock du tout.
Du tout.
Et qui n'est pas, par exemple, composé de cuivre, comme David Bowie pouvait le faire dans d'autres. David Bowie, à la base, est saxophoniste, en fait. Entre autres choses, il est multi-instrumentiste. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas déjà des éléments de science-fiction à l'intérieur. Il y a dans cet album We Are the Angry Men, qui, très concret, est un résumé de Soleil Vert qui venait de sortir quelques mois auparavant. Et il ne s'en cache pas en interview qui avait lu Soleil Vert, qui s'en était inspiré. Donc, dès le départ, pas dès le départ, mais de manière assez chronique, David Bowie est un gros dévoreur de livres de science-fiction.
De livres en général, livres de science-fiction, et dévoreur, oui. La plupart de ce qu'il dit et des témoignages semblent indiquer que quand, à une certaine époque, il se promenait avec des. Comment dire en français. Les contes pas un grand mais quelque chose. Enfin, bref.
Les cantines remplies
de bouquins, voilà. ce qui est très pratique, vous êtes sans mots, de toute façon, vous pouvez juste porter ce que vous voulez, quelques mots en plus, et tout simplement.
Donc, aux influences de la SF des 60s.
Oui, donc là, on est fin des 60s, début des années 70, c'est-à-dire dans une culture qui est particulièrement, comment dire, science fiction friendly, c'est-à-dire qui accueille la SF. On est dans un moment culturel où ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire qu'on est encore dans le programme spatial américain, et ce qui se passe dans le paysage culturel, c'est-à-dire dans le rock, dans la musique, converge. Donc là, on a juste quelques exemples de livres parus dans la période, j'ai choisi 77-75, pour illustrer. Donc vous reconnaissez des noms d'auteurs particulièrement célèbres. Donc on a Dick, on a Moorcock, Spielberg, et on a Starmer Jones, parce que bon, certaines personnes se disent qu'après tout, ça a peut-être été une influence. Il ne faut pas oublier, quand on a Moorcock, on a la revue New World. New World étant un magazine de science-fiction qui existait déjà avant que Moorcock en prenne la direction, mais avec la direction de Moorcock, il change la présentation du magazine et il se met à publier des auteurs de sa génération. Ça veut dire ce qu'il y aura. Là, j'ai choisi la couverture justement où apparaissait en feuilleton un roman d'anglais, si vous parlez plus simplement de vous, qui est Jacques Baron et l'éternité en français et Bob Jacques Baron en anglais. Alors, ce que j'adore, c'est cette citation de Henry Moorcock qu'il avait écrite pour présenter ce qu'il voulait faire dans la revue. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il veut créer un magazine de grande taille, style Playboy. Qu'il veut que ce soit visible dans les newsstands, donc sur les comptures, et il veut que ce soit, que les textes soient écrits longtemps. Donc ici Burroughs et quelqu'un dont je ne vais pas chercher la référence, c'est pas grave. Mais it would be popular, ce sera un magazine populaire, et qui publierait tous les auteurs qui ne trouvent pas d'endroit pour la publier. Et ça, ce mélange High Heart Laura, ce mélange entre plutôt la rencontre de l'art entre guillemets officiel académique et de l'art populaire, c'est quelque chose que Bowie a toujours fait, qu'il a dit. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il fait. Il y a beaucoup de choses en état d'interview, mais pour moi, ce qu'il faut considérer, c'est ce qu'il fait. Et en fait, en réalité, il a fait ce que Moorcock dit dans cette citation, que j'ai trouvé après avoir lu des interviews de Bowie où il parle de ça. Donc, mais bon, il y a quelque chose de ce genre de temps. Une coupe si je suis trop longue. Hein.
Non, mais c'est vrai.
Je ne me rends pas compte de la.
Je l'ai juste en face de moi, mais on est parfait dans le temps.
Super. Et donc voilà, ça c'était pour montrer l'ambiance. la question étant, pour en revenir à mes hippies, comment passe-t-on d'un chanteur à la sonorité plutôt folk à la look certes agréable, mais qui n'est pas une superstar. La première étape, et ça passe par la science-fiction, c'est Space Oddity, une chanson que vous connaissez peut-être ou pas. Donc c'est 69. Et cette chanson est aussi son premier succès. C'est un hit parce que la BBC le reprend comme générique de l'émission consacrée
à un message d'Apollo 9
voilà.
69.
Donc du coup oui voilà ce qui lui permet d'avoir un titre dans les parades, ce qui est quand même extrêmement intéressante. Sachant que Space Oddity n'a pas été enregistré par un de ses grands producteurs qui est devenu quelqu'un qui a joué un rôle majeur dans sa carrière, c'est-à-dire Tony Visconti. Tony Visconti a dit qu'il ne voulait pas la faire parce que c'était un gimmick. C'était commercial. Il utilisait trop l'actualité, donc bon, c'était pas pour lui. Par ailleurs, cela dit, c'est une chanson qui est totalement balardienne. C'est-à-dire qu'on a un astronaute, on entend. J'oublie un détail. C'est une chanson qui est remarquable à la fois musicalement et par son texte. Musicalement, c'est par l'utilisation des synthétiseurs, du mélotron, du stylophone. Voilà, c'est ça, un stylophone. Donc vous voyez, c'est super sophistiqué. Ça ressemblait à ça et ça permettait en glissant le pointeur de faire des petits. Et c'est une histoire. C'est une nouvelle pour moi. C'est une nouvelle en quinzaine de minutes. Et c'est balardien parce que ce Michael Thomas, cet astronaute, il n'est pas en train de conquérir l'espace, il est en train de discuter avec Ground Control, il a peur. À un moment, on lui dit, j'ai oublié, mais on lui dit, il faut derrière passer la porte, parce qu'on en est au moment où la porte s'ouvre et lui sort dans l'espace. Il a peur et il y a un moment où la conclusion, la constatation de la chanson, oui, ça y est, j'ai un trou. Les derniers mots de la chanson. Bref. Voilà, Planet Earth, merci. Je savais, je pouvais compter sur vous. Planet Earth is blue, but there's nothing I can do. La Terre est bleue, il n'y a rien que je puisse faire. C'est une vision totalement contemplative. C'est une vision de ce qu'on appelait à l'époque Inner Space, des auteurs comme Ballard, désirait ne plus s'occuper de l'extérieur, de l'espace, de la conquête, des planètes, etc. Il vous disait qu'il voulait explorer l'espace intérieur, ce qui était également dans la continuité des années 60, les années psychédéliques, les années de consommation, de drogue, etc. Des gens disent que peut-être il l'aurait écrit après avoir pris, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas, de toute façon, dans ces cas-là. De toute façon, on termine, c'est pas un héros, et on termine sur une image qu'on peut considérer, alors ça va dépendre des gens, soit comme totalement contemplative et peut-être belle, par exemple, Face Blue. Ou qu'on peut considérer comme une défaite, puisque la mort est une défaite. Et comme beaucoup de fois avec Bobby, c'est lui qui ne dit pas ce qu'il faut penser, c'est lui qui fait des bruits avec le texte. Oui, le truc étant que Major Tom aurait pu n'exister que dans cette chanson, or ce n'est pas le cas. De façon étrange, Bobby a été considéré comme quelqu'un qui changeait tout le temps. Parce qu'il a écrit une chanson qui s'appelle Chut, je vais pas chanter. Alors que, en fait, les thèmes, les thématiques de son œuvre sont parfaitement claires et sont les mêmes du début ou à la fin de sa carrière. Donc on ne devrait pas être surpris de retrouver en 81 notre ami Major Tom. Et je pense qu'on va pouvoir s'offrir 30 secondes d'Hachet sur la chaise. Donc, nous sommes.
C'est pas de ça.
Ah non, c'est pas vrai. Alors, c'est pas moi qui vais aider parce que je suis la comptable. Peut-être que je suppose. Ah, c'est pas moi qui fais la technique, malheureusement. Enfin, non, au mieux, c'est pas moi qui fais la technique. Donc, qu'est-ce que. C'est pas grave, on les connaît, oui, je m'en doute, mais peut-être que certains ne la connaissent pas. Et tout le monde n'est pas aussi vieux que nous. Ouais, mais c'est le fondant.
C'est que son gordon.
Ouais, quand il
y a ça.
Bon, de toute façon, il fallait qu'on ait.
Ah, c'est peut-être qu'à télé, t'es pas. C'est ce que c'est. Je sais pas. Ouais, bon, bah.
Bon, peu importe. L'idée, c'est qu'on retrouve. L'idée, c'est qu'on retrouve le même personnage, et qu'au début, ça, il dit Do you remember a guy in such a lonely song? I've got a message from ground control. Donc, en fait, il reprend son personnage, dans cette vidéo qui est totalement novatrice pour l'époque, parce qu'à l'époque, on foutait la peau des fesses d'en faire une, et on commençait juste à inventer des petits machins comme ça, et à jouer avec des solarisations, qui plus est, Haché sur Haché, c'est une chanson extrêmement étrange. C'est une chanson qui parle de la de mort, de fin des choses. Haché sur Haché, c'est ce qu'on dit lors d'un enterrement, décembre. Et on peut se demander, effectivement, quelque part, il écrit. Il écrit quelque part son éloge funèbre dans cette chanson. Alors qu'il a, il a encore que 33 ans, quoi, il est jeune. Ce qui est. C'est pas donné à tout le monde. Mais je t'en reviens. Et la figure de l'astronaute revient également. On la retrouve dans un autre clip d'une chanson qui s'appelle Slow Burn. Vous pouvez chercher le clip sur internet. Ça n'est absolument pas le sujet de la chanson. Ça n'a rien à voir. Mais il y a l'image de l'astronaute et il y a aussi l'image d'une vieille petite fille dont on peut se demander qui est. Et on la retrouve pour terminer, et je vais remettre la main à Antoine. On la retrouve dans le clip de Black Star, donc la chanson titre de l'album, où on voit le cosmonaute à la fois mort sur une île déserte, avec un crâne recouvert de joyaux, comme dans certaines, on trouve ça dans les villes de l'Est. Dans des reliquaires, des objets de ce type-là, et on voit le corps de l'astronaute rejoindre un soleil noir, et on peut s'imaginer qu'il disparaît. On en retendra.
On en retendra dans la dernière partie. On va passer au Guernes et à Sylvie Stardust.
Oui. Toujours là le succès, enfin ce qui aurait été possible, ça, c'était que Space Oddity ne soit qu'un succès, un one shot, qu'il ait eu succès une seule fois. Et c'est ce qu'il a cru parce qu'il a ramé pas mal de temps, si on peut dire, avant d'arriver à répéter un succès. Et bizarrement, son deuxième succès, il arrive à la FASF. Ça c'est avant Zippy. C'est le groupe qui a appelé The Hype, donc le type derrière, c'est le Mix Fuji.
Jeune. Et là.
Et bon, il est en Rainbow Man, mais bon, là, j'ai pas trouvé de photo couleur. Il y a pratiquement pas d'image de cette époque. Ils ont dû donner des concerts pendant quelques mois. Ça n'a pas marché du tout. Par contre, à l'homme se conserve une personne qui s'appelait Langolan. On doit avoir, on avait peut-être, je ne sais plus si on l'avait avant ou si on l'a après.
Juste avant.
Donc dans la grande bataille pour savoir, dans la grande bataille pour savoir qui a inventé le glam, on ne peut pas trancher. Parce qu'on peut supposer que les idées ont circulé des uns aux autres. Donc le glam, c'est ce mouvement. Alors là, je marche sur des œufs parce que je ne suis pas, madame encyclopédie du rock. C'est un mouvement qui met essentiellement qui insiste sur la théâtralité, sur les costumes, sur vous voyez, sur les paillettes, sur l'emphase, bref, qui est en opposition totale avec l'esthétique de l'époque, du moment où les gens, en gros, ils avaient des jeans et des t-shirts. Je résume, mais c'est pas très bien. Et de mon point de vue, il y a énormément de points communs entre le glam et la science-fiction. D'une part, il y a le rapport avec le réel. La science-fiction, c'est un genre qui ne décrit pas le monde tel qu'il est, s'il y en a un. Donc on dit qu'elle est non mimétique. Le glam, c'est pas du tout non mimétique non plus. C'est pas les 60s engagés, c'est pas Bob Dylan, c'est pas Jovel, c'est pas ce courant-là. Et ils veulent aller contre ce courant-là. Si c'est une marque, on donne des leçons de ce qu'il faut faire politiquement et idéologiquement. La SF, c'est une littérature qui extrapole et qui simule les univers. Et quelque part, ce que font les types habillés en murailles, c'est qu'ils créent un univers sur scène, ou du moins ils essaient. Certains avec plus ou moins de succès. Il y a un autre point commun, à mon avis, c'est le sense of wonder, la démesure. Le sense of wonder, j'espère que vous savez ce que c'est la réaction du lecteur face à une bonne idée de science-fiction, c'est le roi. La SF se définit, et ça, enfin, je ne vais peut-être pas faire la définition, mais la SF, c'est une littérature populaire. La littérature populaire, elle se définit par l'effet qu'elle a sur le lecteur, par l'effet physique, quelque part, qu'elle a sur le lecteur. L'horreur, c'est ce qui vous fait peur. Et la peur, ça va se faire le corps. Le porte-monnaie de la littérature érotique, ceci c'est une littérature qui est censée avoir un effet sur le corps. Alors, c'est encore plus populaire que la littérature populaire, mais surtout ne vous en attachez pas trop près. À l'époque, la façon dont on perçoit les groupes comme Alice Cooper qui fait des choses bizarres sur scène, ou même comme Bowie, c'est des gens qui choquent. On n'a jamais vu des regards comme ça. Ça leur fait du bizarre. Je ne sais plus si on a mis le deux pages avec les chocs à couvrir. Non, c'était pas ça. Non, on l'a peut-être pas mis. Je ne sais pas quand la pièce tombe. Et donc, où en étais-je ? Oui, dans la SF, tout est possible. On part du début de l'univers à la fin de l'univers. Et quelque part, on a une distance, puisqu'on se décale dans le temps, dans le futur, on a une distance dans le présent. Et le glam, c'est tout dans l'ironie, la distance, le pastiche. Bowie a dit à un moment qu'il fallait maquiller Rock, tant que ça, c'est-à-dire en but, c'est ce qu'il dit aussi dans ce qu'il dit, I'll be a rock and rolling gig for you. Ça veut dire. Donc, c'est une forme d'art qui se pose comme art, qui n'est pas un miroir transparent, mais qui vous dit je suis là et j'existe quelque part. Et donc, où en étais-je ? Et donc, c'est une esthétique. Et pour la SM, ça veut dire qu'elle n'est pas dissociée du visuel. Que ce soit les portes, magazines, je ne sais pas si vous avez déjà vu les couvertures de magazines américains des années 30, 40 et 50, c'est des couleurs primaires, c'est du rouge, c'est du noir, c'est du vert, et la plupart des gens vont trouver que c'est dans le monde du goût, c'est du monde rentable. D'où ce que j'appelle la tentation du kitsch, c'est-à-dire que quand on vise le sublime, ben, quelqu'un se plante, quand on vise la fin de l'univers et des trucs extraordinaires, des fonds de plante et on tombe dans le grotesque. Mais ça vaut le coup d'essayer. Et j'adore cette citation de Brian Eno, que je vais essayer de traduire. Le kitsch, c'est la façon dont les posh people, les gens riches, s'avouent qu'ils aiment les choses que les gens ordinaires aiment. Et je pense que ça résume beaucoup de choses. Et ça se traduit, pour nos amis chanteurs, par des baguettes, par ce que vous avez vu. Donc là, nous avons les origines de Ziggy. C'est-à-dire que bon, The Hype, c'est quand même complanté, il a fait notre album, et il a réfléchi, il a écrit d'autres choses, il a rencontré Mick Ronson. Jamais oublier que sur la guitare de Mick Ronson, je ne sais pas si, et sans ses qualités d'arrangeur, si Bobby aurait écrit de la même façon ce qu'il a écrit. Et dans les origines de Ziggy, il y a plein de choses. J'ai essayé de ne pas en oublier, ce qui va être difficile. Il y a Orange Mécanique de Kubrick, il avait vu le film à l'époque. Et en fait, l'esthétique de Ziggy des débuts, c'est les Broads. Il l'a dit dans des interviews. Les Broads, vous savez, c'est les voyous d'Orange Mécanique. Donc ils ont, d'où les bottes et l'espèce de combi. Il y a Kubrick, il y a Iggy Pop, même si c'est pas tout à fait ça. Enfin, il a cherché, le problème c'est de trouver un nom pour faire une plastique rock and roll star. Donc Ziggy, c'est une partie de Ziggy. Il y a le Legendary Stardust Cowboy, qui est un pauvre type, quelque part, qui avait sorti un disque, et je pense que c'était Stardust Cowboy le titre, j'espère que je ne me trompe pas, et donc, qui était sous le même label que Bobby, donc qu'il avait rencontré, et qui était un gros, était un peu barré, quoi, les autres. Voilà. Et il y a probablement aussi un peu de Vince Taylor, qui était un rocker, genre Elvis, mais pareil, il avait quelques problèmes dans sa tête. Bon, il y a une fascination pour les bizarres, les gens qui sont à côté de la vie, à côté du monde, qui ont raté les choses. Et je pense que c'est à la fois une fascination et une trouille absolument monumentale.
Son frère souffrait de schizophrénie.
Qui plus est, voilà.
D'où plus certaines références, c'est quand même Montaigne dans The Man Who Sold the World.
Qui est l'album précédent.
Qui est l'album précédent, mais qui est aussi un titre référence à Nouvelle Grenade, qui est The Man Who Sold the World, et qui fait écho à justement Victor Lesser.
Tout à fait. Enfin,
donc. Le principe de Ziggy Stardust, et un grand débat nous a mis entre Ziggy et moi de savoir si c'est un album concept ou non. Pour ma part, oui, mais non. Pour Sylvie, pas du tout. Mais d'un point de vue narratif, on peut voir un sens de lecture et une vraie narration dans la progression du personnage de Ziggy au travers de l'album. Et dans le titre de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Pour autant, ce n'est pas pour autant que la narration est stricte. Ça reste des chansons. On n'est pas quasiment à la même époque. Il y a quand même Tommy DeWu qui, lui, cet album est un vrai album concept qui a même été adapté en spectacle et en film. Mais l'intérêt de. C'est un album concept, non pas d'œuvre unique, puisque c'est aussi un concept de scénique. C'est-à-dire que David Bowie, en 74, à l'Odéon, quand il annonce que,
qu'il
arrête, c'est vraiment la mise en scène de Rock'n'Roll Suicide, vraiment dans le principe. un petit côté christique qui va me suivre même jusqu'à Red Star. Pour autant, par exemple, Five Years est quand même une chanson qui est très narrative et qui se base encore une fois sur, non pas le livre sur la lumière, mais sur le film avec Charlton Heston. Et c'est cette projection qu'il a dans le temps, pour revenir vraiment à la temporalité chez Bowie, cette projection dans 5 ans du monde en décrépitude, en déliquescence qu'il faut sauver grâce au rock'n'roll, mais c'est plus la vision de cette scène avec Charlton Heston et justement les abris où les gens s'entassent et où les gens souffrent.
Oui, c'est une vision politique. Voilà. Enfin, violent, c'est vraiment la société qui se déblague, on lit très bien dans les paroles. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est l'idée du délai, c'est qu'il ne reste que 5 ans. Il n'y a plus de ressources sur Terre et il ne reste plus que 5 ans. Donc là, si vous n'entendez pas l'horloge temporelle qui fait tac-tac-tac, je ne sais pas quand est-ce qu'on entend. Ouais. Donc ça, c'est, on a différentes visions de Ziggy. Ça, c'est plutôt au début, quand il est encore proche d'une certaine idée d'un plastic rock'n'roller ou des groupes de lubriques. Et on a petit à petit une évolution de plus en plus théâtrale à partir du moment où il commence à où on commence à voir les femmes des costumes japonais et la mise en scène. Et où évidemment il utilise de plus en plus son côté androgyne. Ziggy, il est censé être un extraterrestre venu pour sauver les humains, si c'est possible, et qui meurt sur scène. Et la raison pour laquelle j'ai vraiment du mal à trouver du concept à part effectivement dans l'esthétique et sur la scène, dans les costumes et dans sa façon d'utiliser son propre corps tout simplement. C'est que moi je trouve pas qu'il y ait une storyline. Il y a des interlocuteurs qui changent constamment, c'est-à-dire que essayer de trouver qui sont les narrateurs dans chacune des chansons, ça change tout le temps. Essayer de retrouver, moi je ne trouve pas qu'il y ait une réalité qu'on voit, mais j'ai peut-être raté des trucs, comme vous savez. Donc je ne sais plus où j'en étais, c'est malin. Et sur la fin, on a effectivement une sorte de drag queen qui fait du kabuki dans des costumes qui ne sont pas vraiment ni un homme ni une femme, qui ne sont pas complètement non plus ceux de Rocky Horror Picture Show qui jouaient à la même époque, parce que la subversion des gens n'est pas la même. Tim Curry dans Rocky Horror Picture Show, c'est vraiment transvestite, un travesti. Bowie en Ziggy, il est ni l'un ni l'autre. Il est hors de la féminité et du masculin, et en même temps, il est les deux. Et il sait très bien s'en servir. Et je pense qu'on arrive pratiquement à la fin de Ziggy.
Ziggy,
t'as peut-être des choses à ajouter.
Oui, j'ai quand même 2-3 choses à vous dire. Ziggy meurt sur scène en 1974, mais un nouveau personnage est créé, Red Insane, qui est le bonjour direct de Ziggy. L'esthétique, on n'a pas mis forcément de photos à ce moment-là.
Ah,
qu'est-ce que j'ai fait? Puisque Guide Insane est vraiment un album qui se conceptualise au moment où Bowie part aux États-Unis sur une première tournée. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit justement qu'il sombre dans l'abus de drogue. Faut être honnête. Pour ceux qui, si des gens ont été voir, n'ont pas été voir, mais ont été voir l'expo David Bowie, à la Paris et la Cité de musique, on a quand même un élément qui est édité cuillère à côté.
Ce qui est fou, c'est pas qu'il en ait eu une, c'est qu'il ait gardé.
Oui, c'est qu'il ait gardé. On accepte de l'étiqueter pour une expo faite de son vivant. Mais bon, bref, passons. Et c'est dans une. Il faut savoir que Levinson et cette tournée américaine a laissé une grande trace de fatigue, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de césure entre les deux personnages, et que l'album s'est fait très rapidement entre Levinson et Ziggy Stardust. Il en résulte une chanson quand même, puisqu'on parle de temps, Time, qui vient sur cet album, qui est quasiment une instrumentale de piano, il n'y a quasiment pas
oui,
très peu.
Il vient juste d'embaucher le pianiste avec qui il a travaillé pendant 40 années. J'ai un trou d'abandon.
Oui, moi aussi.
Merci.
Et donc, du coup, quand on parle de personnalisation, le temps chez Bowie, la personnalisation, même si c'est une chanson mineure au final, le temps c'est. Non, mineure dans le sens. Moi je l'aime beaucoup, mais c'est majeur pour moi. Mais dans l'expression du temps, la majorité des expressions du temps sont plutôt parolières, voire musicales, plutôt, et non pas directement frontales. Là, on arrive sur quelque chose qui est limite nostalgique. On écoute les paroles et la description du temps qui est humanisée. Je suis très mauvais pour citer de tête les paroles.
Le début, c'est Time is waiting in the wings. He speaks of senseless things. Donc, c'est le temps, il attend dans les coulisses. Il parle de choses. Ça rappelle Shakespeare. La vie est un conte raconté par un idiot, etc. Donc, en fait, le temps, c'est le temps, il est comme le manager. Il vous serre la vis et il se fiche de vous. Et il se moque de vous et vous êtes son jouet. Pour moi, cette chanson, elle dit ça.
Et donc, Bowie reste aux États-Unis quelques temps. Et la prochaine incarnation de temporalité qu'on a trouvé tous les deux, c'est l'homme prisonnier du temps, qui en vient avec ce man au Factor 9, qui a été projeté pour. Je ne sais pas s'il y a des gens qui.
Oui, est-ce que vous avez eu le temps d'aller
voir
le film?
Parce que Greg est en cours de projection. Je crois qu'il vient juste de finir. Oui, mais il est passé. Ça vient de finir. Et donc, du coup, Nicolas Seul, qui connaissait Bowie, qui cherchait une tête particulière, est tombé sur une vidéo de Bowie dans une interview que je n'ai pas au final. Mais qui c'est Bowie tout seul avec son grand chapeau
dans sa limousine
totalement drôle. On doit avouer totalement Bowie qui discute avec le documentariste et qui fait ce matin j'ai trouvé une mouche dans mon gant. Il a la main, il y a une intemporalité, une déconnexion du réel qui se produit.
Oui, et en plus il dit there's a fly in my milk, it's a foreign body, c'est un corps étranger. C'est lui le corps étranger, c'est un anglais aux États-Unis.
Et donc, parce qu'il y a un corps étranger qui ne comprend pas après un Muffet of America, mais c'est pas vraiment le sujet de la temporalité de notre sujet propre. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que Nicolas Seul voit ce documentaire, cherchait quelqu'un pour intégrer justement un alien, sachant qu'à l'époque, David Bowie a perdu beaucoup de poids, a vraiment un physique massif. Enfin, il a repris un peu de poids, mais à l'époque.
Il était censé pas rien prendre sur le tournage, très long.
Bon. Et arrive justement une étiquette qui va coller en plus de Ziggy, c'est vraiment cet extraterrestre dans ce film où la culture populaire va assimiler les deux. Voilà. Je pense avoir fait une bonne introduction.
Tout à fait.
Sachant que.
Pendant laquelle je n'ai pas été fichu de retrouver mon papier, c'est génial.
Sachant qu'en plus, vient aussi Lazarus, la pièce, la comédie musicale avec Michael Cimino, qu'on met dans le même univers puisque c'est directement la suite du film.
Donc, l'homme qui venait d'ailleurs, je me mélange tout, on fait ça tous les deux, on n'arrive pas à faire la différence entre le titre français et le titre anglais. Adapté d'un roman de Walter Pélis, dans lequel un extraterrestre arrive sur Terre, décide de vient d'une planète, c'est pas très défini, apparemment ravagée par la sécheresse, et décide de construire les moyens de rentrer chez lui et de ramener de quoi inventer des ressources en eau essentiellement dans sa planète. L'aspect spéculatif pour les gens qui aiment l'art science et véritablement scientifique du bouquin, qui est très beau comme du film, est excessivement, à mon avis, mince, mais on s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est la trajectoire du personnage. Dont on se rend compte petit à petit qu'il ne change pas, qu'il est mortel, c'est-à-dire que lui ne bouge pas. Donc il y a une adéquation totale entre l'image de Bowie et son le personnage du film, dans lequel il se fond et il disparaît. En fait. Et on peut. Ce qui se passe, c'est que l'alien étranger ne vieillit pas, reste sur Terre. Et n'arrive pas à faire ce qu'il est prévu. Il échoue lamentablement, il est pris par la vie sur Terre, par la vie humaine, par. Je pense qu'on peut, tu peux nous mettre la situation dessus. Voilà. Il tombe dans la colle, dans le sexe, dans toutes les choses basiques, primaires, et qui sont à l'opposé de la vision aérienne. Et angélique qu'on pouvait avoir de cet être. Donc on assiste à une déchéance totale. Et on assiste à l'invention de l'Internet, c'est-à-dire que ce qu'il essaie de faire, il essaie d'obtenir des informations. Et comme il ne dispose pas non plus, il est immortel certes, mais ça ne semble pas avoir d'importance sur sa fixité, parce qu'il essaie d'absorber tout en même temps. Donc il regarde 10 télévisions avec des films, avec des infos, avec des choses. Il y a plusieurs scènes comme ça. Donc c'est l'abolition totale du temps et c'est l'immersion radicale dans l'information, ce qu'on a maintenant, sous la forme d'Internet.
Juste pour faire un point par rapport à la littérature de science-fiction, est-ce qu'il y a des fans de Philippe K. Dick dans la série ? Il se trouve que dans le premier tome de la trilogie du film, on a qui s'appelle Sylvia Vélis en anglais, il y a cette plus ou moins auto-fiction parodique de Philippe K. Dick sur les recherches d'un être suprême qui vit dans l'espace. Une des sources influences majeures dans une scène grise, c'est-à-dire que le groupe de protagonistes va au cinéma, voit un film réalisé par un certain Eric Crompton, c'est directement Gone with the Wind qui est projeté au cinéma. Pour Philippe K. Dick, c'est un très bon film de SF et ça sert d'élément clé vraiment dans ce roman, puisque c'est un manière industriel qui, un peu musicien, qui possède beaucoup de moyens, qui est vraiment le pivot central de
il apporte des technologies à la Terre, mais la première technologie, c'est le Polaroid avant l'heure. Alors, la scène, il déroule, si vous avez vu le film, des gens prennent des photos de choses sexuelles qu'ils font dans des lits. Est-ce qu'ils peuvent couler cette fille? Le sexe, tout ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, les choses que les gens sont censés n'avoir inventées qu'avec Internet, n'est-ce pas? Il est bien possible qu'ils les faisaient avant, ça aurait été trop mal. C'est quoi le nom du roman? The Man Who Fell to Earth.
Non, le nom du roman de Philippe K. Dick, c'est Sylvia S.I.V.
D'ailleurs, il y a un personnage qui est inspiré de Brian Eno.
Oui, mais.
Sylvia, c'est Brian Eno.
Oui, mais j'en parlerai.
C'est lui qui fait cette partie-là.
Voilà. On va enchaîner sur Lazarus, parce qu'on est déjà en retard en fait.
On est déjà en retard.
Mais on peut rester un peu plus
tard. Ouais, vas-y, mais je vais aller vite.
Pour quelque chose.
Pour vous dire. Ceci est un dessin réalisé par Bowie qui avait donné à sa partenaire chez LinkedIn, Candy Clark. Et quand vous partez, une de ses façons de travailler, et il le dit dans des interviews, c'est de dessiner. C'est de dessiner les chansons dont il était coincé, qui n'avait pas d'idée musicale. Dessiner. Et donc là, donc on voit qu'il a fait un autoportrait en automne. Et si vous regardez en haut à droite, il y a des caractères qui semblent être, je pense, une tentative d'invention d'un alphabet extraterrestre. Et ça prouve à quel point il s'était plongé dans le rôle et à quel point il était dedans. Ça a été vendu, j'ai trouvé l'image parce que j'ai. Ça a été vendu à une vente aux enchères et des catalogues sur internet, donc en prenant du temps. Donc, et donc, ce personnage a tellement marqué que, 30 ans après, il a écrit en collaboration avec Yvon Lamov et Anna Walsh une pièce qui s'appelle Lazarus, qui a été représentée à New York et à Londres. Et j'ai eu la grande chance de voir la représentation. Et voilà. Et donc, j'étais relativement bien placée. Et là, on voit au début de la pièce Michael Simon qui reste pendant un quart d'heure, je peux vous dire, il n'a pas bougé un doigt. Et donc, c'est hommage à Howard Newton, c'est l'extraterrestre qui vit dans un appartement tout seul, qui est milliardaire, qui passe son temps à picoler, comme il le faisait exactement dans le bouquin, qui reçoit la visite de personnages, il y a une fille qui s'appelle The Girl, et qui... Donc là, le décor n'a rien, et les musiciens étaient derrière, on les voyait sans les voir, il y avait parfois de l'éclairage et parfois pas, et il y avait des projections, ce qui fait qu'en fait, la pièce est l'intérieur du crâne de Newton, et à aucun moment on ne peut savoir si ce qui se passe est réel ou pas. On ne sait pas si c'est réel ou pas, c'est dans son imagination, c'est hors du temps. Il ne peut pas mourir, il ne peut pas vieillir, il est coincé. Et il essaie de s'en sortir. Et on sait qu'il est totalement hors du temps. Ben non, j'ai plus mon papier. On sait qu'il est hors du temps, parce qu'à un moment, une des personnes qui vient le voir essaie de le faire sortir de sa routine, il passe son temps à gigoler et à il essaie de parler du passé et de la femme dans sa compagne dans le film qui s'appelle Marilyn. Est-ce que Newton répond, c'est il essaie de parler du passé, il répond there is no past, it left. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de passé, il y a pas de futur, il y a juste un présent éternel auquel il est passé. C'est un spectacle absolument étonnant, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil, c'est-à-dire que pendant deux heures et demie, j'ai totalement été incapable de sortir mon attention et j'étais totalement captivée. Effectivement, c'est une sorte de présent continu et le seul moyen d'avoir du recul par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a une telle intensité de jeu, et de dialogue et de show et de production lumineuse plus les chansons, parce que j'ai vu un concert de Bowie dans ma vie et j'ai pas souvent entendu en live, là c'est pour avec la musique, donc il y a des chansons qui repassent toute sa carrière et c'était en live, ça c'était quand même un bonheur total. Et je crois même que je suis arrivée à tout ce que je voulais dire. La phase suivante,
je vais prendre le micro, je vais essayer d'être rapide quand même pour ceux qui... Une notion de temporalité pour moi, c'est quand même la tentative d'adaptation de 1984 qui a échoué. Il faut savoir que David Bowie était en contact avec l'interprète Orwell pour pouvoir adapter 1984, chose qui n'a pas été possible. Gadot de George Orwell ne voulait pas parce qu'elle était traumatisée par le film de 1949, je ne sais plus, j'ai un trou sur la date. Et il faut savoir que David Bowie a quand même je crois qu'il a dit, pour quelqu'un qui vivait avec un socialiste, je n'ai jamais vu une bourgeoise aussi snob, grosse mono avec un truc. Donc, voilà. 1984, il en reste quelques traces quand même, avec la chanson de 1984. Avec certains bouts de texte qui montrent l'adaptation. Il faut savoir qu'à base, Diamond, 1984, donc, qui est devenu Diamond Dogs plus tard, devait déjà incarner un nouveau personnage qui s'appelait Egoïm Jack. Il y a beaucoup de confusion, à chaque fois il reste constant sur ce genre de choses, mais il y a une évolution du personnage qui n'est pas dit. Il y a souvent un mélange sur les genres. Mais surtout, qu'est-ce que je voulais montrer, ça devait être un opéra rock avec une scénographie, avec le même principe que Ziggy Stardust, c'est-à-dire quelque chose qui soit opératique. David Bowie avait pris des cours de théâtre, des cours de mime, et en plus, du fait de ses études d'école d'art, avait un sens de la scénographie. C'est-à-dire que le gars, je vous ai juste mis un élément de décor, mais il avait pensé, par exemple, l'attitude des bandes qui deviendront dans les Diamond Dogs pour vraiment développer son univers. Et c'est quand même 1984, même si on est toujours dans les années 70, c'est un bond dans le temps quand même, et une peur de la société de contrôle. C'est quelque chose qui me marque beaucoup, et qui a beaucoup marqué dans son expression « five years », par exemple, sur le monde des grands écrits, cette menace qui perd tout autour.
Oui, et bon, je ne sais pas si vous en avez à lire, mais la ville où c'est censé se passer, ça s'appelle Hunger City, et c'est vraiment un futur apocalyptique. C'est des cités ravagées où il n'y a plus que des gens qui font du roller skate, des jeunes. Et en fait, la façon dont il écrit le truc, c'est que la civilisation s'est écroulée, et les gamins se promènent et se débrouillent et pillent. C'est vraiment. C'est une fin des temps. Ça n'a absolument rien d'optimisme, comme aucune chanson dans Diamond Dogs, parce que si vous avez entendu We Are the Dead, c'est vraiment une des chansons, et ça elle parle des deux personnages de 1984, et c'est une chanson absolument remarquable, mais.
Voilà. Et j'avais envie de faire un focus vraiment. C'est pas une question.
On fait un bond dans le temps.
On fait un bond dans le temps. Mais s'il y a une période ou un album qui est pour moi un peu crucial dans une question de temporalité, aussi bien musicale que d'une vue d'un front déstructuré, c'est le premier album de la trilogie berlinoise. C'est l'homme qui vient de fêter ses 40 ans en janvier, de mémoire, le 17 janvier au 21, je ne sais plus trop. L'homme, c'est un album qui marque un gros changement. C'est une rencontre avec Brian Eno. Brian Eno, qu'on connaît comme producteur, comme pas génie créatif, mais il aime bien donner sa carte et dire je ne suis surtout pas musicien. C'est un album qui vient après une grosse période de dépression musicale pour Bowie, puisque
dépression
tout court, mais dépression musicale, station to station, n'a pas forcément fonctionné comme il fallait. Ça a été une période de production très dure pour lui. Et on lui propose d'enregistrer un album, d'abord en France. C'est le petit paradoxe, c'est une trilogie berlinoise, mais...
Oui, la trilogie berlinoise, il a quitté la côte et Los Angeles, enfin bref, il allait habiter à Berlin. Et on parle de trilogie berlinoise pour l'eau et
l'autre.
Le truc, c'est qu'en fait, les trois quarts du temps, il n'était pas à Berlin, il était en Suisse, parce que fiscalement, il y avait une bricole. Mais ça reste quand même la période berlinoise.
Ça reste la période berlinoise, mais les premiers enregistrements ont été faits dans un studio de d'Hérouville, et qui est dans le château où il taguait des choses, mais Brian Eno a repris la main sur cet album, et on commence à travailler sur des musicalités, sur des choses qui sont beaucoup plus électronique qui s'imprègne de gros paillements, d'angles noirs, et on arrive vraiment sur un album de temps déstructuré, autant au niveau des sonorités. Speed of Life, par exemple, pour moi, est une chanson d'introduction d'un album qui, quand on écoute, ne correspond à rien de la musique populaire que peut incarner Bowie. Et cet album aussi symbolise une phase B qui est totalement instrumentale, ce qui est quand même quasiment une première pour Bowie. On peut trouver des chansons instrumentales un peu avant, mais on arrive sur une phase B qui est totalement instrumentale et qui, à mon sens, a des évocations de quasiment avec ses synthétiseurs et ses synthétiseurs et autres machines électroniques s'apparentent à quasiment une BO de film B de science-fiction. Ou, un peu contracté, mais c'est une opinion que j'ai sur cet album, j'ai des doutes quant au fait que Vangelis ne l'ait pas écouté une seule fois quand il a fait la musique de Gellerman. Du fait des synthés, du fait de. Réécoutez-le. C'est vraiment une ambiance électronique futuriste qui a beaucoup inspiré la new wave anglaise par la suite. Et on arrive vraiment sur une bulle entre Low Heroes et Low Journey, qui est vraiment une bulle de temps qu'on ne retrouvera pas forcément dans les prochaines années. Et aussi, il y a une question du souvenir, par exemple, sur Heroes. C'est qu'une projection de souvenirs et une temporalité d'écriture du passé, de choses qui vont se produire. Il y a vraiment un principe du souvenir à rebours où j'y reviendrai sur Gangstar, mais qui fait toute l'écriture de pas mal de cut-off qui te faisait. Voilà. Je vais enchaîner.
De toute façon, c'est Just for One Day.
Just for One Day.
Je peux citer ce qu'avait dit Visconti.
Oui.
Il avait un nouveau synthétiseur, je ne sais plus, pas de mémoire. Voilà. Et comme il fallait qu'il vende le truc à Eno et à Bowie, et il leur dit au téléphone, fax with the fabric of time. Je ne suis pas en train de traduire. Et ça, super génial.
Bon, pour les années 80, comment vous dire, on va glisser. La seule chose que j'ai envie de garder quand même, parce que à la fois c'est une question de temporalité et c'est criant de vérité sur le personnage Bowie des années, ce qu'on appelle MTV, c'est les prédateurs. Parce que les prédateurs, c'est une question d'immortalité. C'est d'abord le temps et David Bowie. On ne peut pas se départir de ce film avec Catherine Deneuve, qui, certes, a ses défauts esthétiques, ses défauts techniques, mais qui, pour moi, reste quand même de bonne qualité. Dans le sens où David Bowie a toujours ce côté androgyne, quasiment éternel, puisqu'il vient d'incarner Ziggy. Qu'on a fait mourir, mais bon, il reste Ziggy. De l'autre côté, il y a eu l'homme qui venait d'ailleurs, qui reste une figure quand même d'immortalité. Et on lui fait inspirer, on lui fait interpréter un prédateur, un vampire, qui cherche à garder son immortalité.
Qui est immortel.
Voilà, et c'est l'androgyne immortel. C'est aussi une des apparences que Bowie a gardé pendant des années, ne serait-ce que dans la culture populaire, au travers d'un personnage, pas au travers de Tony Scott, mais au travers d'une incarnation qu'il y en a dans Tony Scott, écrivant de vérité sur une image populaire qu'on avait de David Bowie. Et je le pensais quand même, c'est plus.
Il y a
d'excellents moments. Faire rencontrer deux monstres que sont Catherine Deneuve et David Bowie. Bon, il y a la scène de la douche qui est quand même pas mal. Je suis désolé pour les gens. Enfin, il y a une scène d'amour sous une douche qui est pas mal.
Elle
est très bien. Mais il y a aussi il est criant de défaut sur ce que peut être dans les années 80 David Bowie. David Bowie n'est plus un humain, n'est plus un alien, c'est une marque. Ça correspond à les années 80, correspond à quelque chose pour Bowie. Bowie est une marque qui est anthropose de manière réelle, c'est-à-dire qu'il met en bourse ses droits d'auteur pour une durée déterminée, ce qui lui permet de faire de l'argent,
de rentrer des liquidités,
mais aussi ça fait partie aussi de sa vision de ce qu'est un artiste intemporel qui ne devient pas humain, mais qui devient une marque. Et c'est pas forcément notre.
Pas forcément ce qu'il a fait de mieux, parce que c'est la période artistiquement où, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, après Let's Dance, moi j'aime beaucoup Let's Dance, mais je comprends les gens qui avaient suivi sa carrière depuis les années 60-70 et qui ont vu arriver ce type avec des cheveux jaunes citron, dans des costumes pastel et qui.
Avec un micro à chef qui danse sur la tournée Spider-Gas.
Voilà.
Si vous avez une heure et demie, pas à perdre, mais pour voir ce que ça donne, sur YouTube, il y a tout le concert.
Tu l'as vu en vrai le concert?
Oui, je sais bien, mais c'est pas forcément.
J'ai pas une bol.
Si on peut en venir au temps, moi ce que je retiens, qui est quand même grandiloquent d'ego et de scénique par rapport à cette chanson qui est interprétée durant cette tournée, c'est qu'il se retrouve carrément au sommet de cette araignée en chantant
avec des ailes.
Ça, c'est la tournée de
87.
Oui. Et donc, du coup, les années 80, on va faire juste ça.
Oui, surtout quand là, on a explosé le temps.
Parce qu'on a vraiment explosé le temps. Et on va faire sur. Je vais m'occuper de vous parler de Black Star.
Voilà.
Enfin, Black Star a été écrit, composé, décidé dans une période où David Bowie se savait déjà malade. On le veuille ou non. En termes de temporalité, il savait depuis 6 mois qu'il se battait contre un cancer. Quand Lazarus a été signé, une des premières choses que le metteur en scène a reçu, c'est un Skype pour lui annoncer qu'il était vraiment atteint d'un cancer assez critique, qu'il viendrait aux répétitions et qu'il assurait au maximum et qu'il fallait des délais de production quand même assez courts et assez importants. Et Blackstar subit un peu le même traitement, enfin subit et magnifié par cette envie de faire un album à la fois hommage mais aussi de retour temporel. C'est dans la manière dont l'image, et là j'ai envie de vous mettre la vidéo sans son mais en fond sonore puisqu'elle dure 10 minutes, on a. Après ça ne peut pas. Désolé. C'est un Blackstar et le premier des deux clips qui sont sortis du vivant de David Bowie. Enfin, encore du vivant de David Bowie.
C'est les deux derniers.
Celui-ci, je crois, est sorti deux à trois semaines avant
En novembre 2015.
Merci pour les dates. Mais si on analyse de A à Z le clip, ce clip a été prémédité, pensé comme un hommage total à toutes les incarnations qu'il a pu avoir. On va pas parler de Lazarus parce que on a du mal, tous les deux on a un peu de mal à le regarder, mais Lazarus reprend par exemple des costumes de Ziggy sans le dire. Quand on voit David Bowie en combinaison bleue à paillettes, en train de danser sur scène entre le lit, l'armoire et le bureau, c'est vraiment un rappel à David Bowie. Là, le premier rappel qu'on fait à David Bowie, c'est Matt Johnson. On ne ment pas, il y a vraiment l'écusson de Major Tom marqué quelque part, et on en fait quelque part une relique. C'est vraiment, c'est un principe de communion avec les fans, mais aussi d'annonce, pas apocalyptique, mais dans le message, ça reste quelque chose de marquant. Ça a été grandement marketé pour une prénalité, mais il y a le côté messianique qu'on avait dans Ziggy Stardust aussi. C'est-à-dire qu'on retrouve le crâne qui sert le reliquaire avec le crâne, on retrouve des servantes, on retrouve un certain ésotérisme qui n'était pas forcément présent dans Ziggy Stardust, mais tout le culte de la rockstar en diminue de clic. Là, par exemple, je vais juste. Par exemple, les pierres sur les yeux est quand même un symbole de rite funéraire dans je ne sais plus quelle civilisation, mais dans les civilisations antiques, on mettait des pierres sur les yeux ou des pièces sur les yeux pour symboliser la mort. On peut passer mais quelque chose qui est criant, par exemple, regarde David Bowie, vous l'avez vu en train de chanter, on peut voir le duc revenir. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on en a discuté hier en préparant la conférence, mais dans la symbolique, c'est un costume trois pièces avec une chemise blanche et des manches à jabot. C'est pas forcément c'est pas forcément le Dieu en lui-même, mais c'est une reprise de l'élément. Et dernière chose qui est quand même assez criante, je sais plus c'est plus grand. Enfin, deux choses. C'est que. C'est le côté prophète, qui se prophète et messie, qui s'exprime en deux façons. D'abord avec ce Black Star qui est ce livre. On vous tend comme une Bible, comme un message d'annonce plus ou moins apocalyptique, comme un prêcheur qu'on peut trouver en Amérique ou dans d'autres civilisations, mais aussi cette crucifixion. Parce que même si on ne voit pas, je ne sais plus, c'est dans la première partie.
Est-ce qu'on les voit avant ou est-ce qu'on les revoit après? Je ne sais plus.
Je ne sais plus. Voilà, il y a également ce message prophétique qui reste quand même très particulier avec des freaks, enfin des scary monsters qu'on peut voir derrière on aurait pu croiser dans la chaise de la chaise. Hop, et enfin, il y a quand même cette crucifixion. Je ne sais plus où elle est.
C'est à la fin.
C'est tout à la fin. On a quand même une crucifixion vraiment biblique, comme un messie. Même si on ne voit pas la tête de David Bowie, vous remarquerez quand même qu'il y a un des personnages établi exactement comme lui. Et on retrouve l'idée de. Pour moi, on trouve l'idée directe de la mort sur scène, comme Rock'n'Roll Suicide a pu l'être à l'Odéon 1974. Mais il y a aussi, et là je ne vais pas forcément vous montrer, il y a aussi cette manière de l'annonce de la maladie quand même, quand Lazarus est sorti chanté par David Bowie, celui de l'hôpital, mais surtout l'artiste qui rentre dans le placard comme s'il veut tirer un rideau sur ce qu'il était.
Qui écrit frénétiquement comme s'il restait plus de temps et qu'il fallait quand même qu'il arrive à terminer ce qu'il avait à terminer. Il faut savoir que le spectacle Lazarus, l'envie. Il a essayé de monter des comédies musicales et des spectacles d'opéra rock toute sa vie, sans y arriver. Donc c'est le dernier truc qu'il voulait faire, et il a réussi à le faire. Mais c'était pas un spectacle de Broadway, c'était un spectacle en Broadway, et c'est, en fait, c'est une pièce avant-garde avec de la musique de Bowie.
Voilà. Donc, pour finir, Black Star est vraiment une communion. Un rappel de souvenir comme un rite. Religieux, pas religieux, mais le culte pour les fans, une manière très orchestrée et très et basée sur la temporalité de toute son œuvre pour baisser le rideau, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que nous...
On n'a pas le des Frankman, mais on s'aperçoit que Bowie, ses rôles les plus marquants, ce sont soit des extraterrestres, soit des monstres.
Soit des monstres.
Il a toujours joué des outsiders.
Ce qui est intéressant avec Bowie aussi, c'est le côté théâtral. De savoir que c'est un grand, enfin, il a même joué du Brecht, qui a une conception de la théâtralité qui est vraiment hors musique, mais qui fait partie de même la musique qu'il compose. C'est-à-dire qu'on arrive sur des. Le temps en théâtre est un élément indissociable de la mise en scène, de l'écriture et du jeu d'acteur. Et là-dessus, ça reste, quand même quelque chose de très marquant. Il y a cette scène dans la baignoire qu'on voit généralement en extrait où il interprète un monstre, mais il a juste besoin d'être lui-même. Il n'est pas grimé comme dans Lynch ou.
Et il se fait quand même un paradoxe total, c'est très malin, parce qu'il est comme le monstre, mais en fait, c'est quand même un des individus les plus beaux qu'on ait jamais vu sur la planète. Donc, quelque part, il y a un peu une espèce de manipulation de la mortitude dans cette affaire qui marche. Enfin, les petits extraits qu'on peut voir de la pièce, on ne voit pas qu'une chose, c'est qu'elle a peut-être été filmée, mais on ne sait rien.
Les extraits qui ont été filmés sont probables, mais on n'a pas forcément de captation.
Pour revenir sur Lazarus, qui avait vu la pièce, il y a bien une histoire. On a vu tout et n'importe quoi sur la pièce.
C'est un truc qui ressemble à rien d'autre que j'ai jamais vu. Pourtant, j'ai quand même vu quelques spectacles un peu bizarres. Il y a une histoire au sens où petit à petit, Newton prend conscience du fait qu'il est coincé et qu'il va falloir qu'il fasse quelque chose. Et il y a des gens qui viennent le voir et qui essaient de convaincre de sortir de ça, et à la fin il y a une réalisation finale. Mais c'est pas plus. Mais cela dit, ça marche quand même. C'est ça qui est fascinant. Enfin, moi j'ai trouvé ça fascinant, c'est que ça marche quand même, parce qu'il y a une telle qualité de jeu. Il y a une intensité, il n'y a pas un seul moment où on sort du spectacle, et j'ai regretté de ne pas avoir pris deux billets et de ne pas avoir pu l'avoir une deuxième fois, justement pour prendre un peu de recul. Mais j'avais pas pensé à ça. Oui, ma foi, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir. Et bonne suite de festival. Merci.